Radio Prague, les informations. Bonjour, la Commission européenne considère insuffisante la réforme des retraites du gouvernement tchèque. Les retraités justement ont manifesté à Prague contre la réduction de la valorisation de leurs pensions. Et puis enfin en sport, en tennis, Tomáš Berdych s'est qualifié ce mercredi pour le troisième tour de Roland-Garros. La Commission européenne a critiqué ce mercredi la République tchèque pour ses projets de réforme des retraites et qu'elle considère insuffisants. Bruxelles estime que diverses mesures supplémentaires sont nécessaires afin que le système fonctionne sur le long terme. Concrètement, la Commission pointe du doigt par exemple la possibilité d'un départ anticipé en retraite pour les carrières longues. Dans ses grandes lignes, la réforme s'efforce de transférer une partie du régime par répartition vers un régime d'épargne-retraite d'entreprise par capitalisation moins risqué pour les finances publiques. La réforme votée en 2011 et qui devrait entrer en vigueur en 2013 prévoit l'introduction d'un deuxième pilier obligatoire, mais avec possibilité pour chaque salarié de s'en affranchir. Parallèlement, le gouvernement a augmenté l'âge légal de la retraite qui passera progressivement à 65 ans et augmenté le taux de TVA pour compenser la baisse de financement du régime de base. Environ 1500 retraités et personnes handicapées, selon la police, ont manifesté ce mercredi dans le centre de Prague contre la politique du cabinet du Premier ministre Petr Nečas. Ils exigent que le gouvernement renonce à sa décision de réduire la valorisation des pensions de retraite et réclament également l'adoption de la loi sur le logement social. La manifestation, appelée pour la survie des seniors, était organisée par le Conseil national des seniors et le Conseil national des handicapés. Les fumeurs représentent 29% de la population tchèque âgée de plus de 15 ans. La République tchèque se situe donc légèrement au-dessus de la moyenne européenne qui est de 28%. Parmi les pays européens, c'est la Suède qui compte le moins de fumeurs, avec 13%. À l'autre bout de l'échelle se situe la Grèce avec 40% des personnes dépendantes du tabac. Les données ont été rendues publiques par la Commission européenne ce mercredi à la veille de la journée mondiale sans tabac. Ce jeudi, l'enquête menée dans l'Union européenne a par ailleurs révélé que 70% des fumeurs et ex-fumeurs ont pris l'habitude de fumer avant d'avoir atteint 18 ans. En République tchèque, le nombre de jeunes fumeurs augmente progressivement. 28% des filles et 22% des garçons tchèques âgés de 15 ans avouent être des fumeurs réguliers. Selon un sondage réalisé en avril dernier, près de 80% des tchèques sont cependant favorables à l'interdiction de fumer dans les bars et restaurants. Le gouvernement a approuvé ce mercredi l'amendement à la loi prévoyant la possibilité pour les automobilistes de choisir leur plaque d'immatriculation. Celle-ci compterait alors une combinaison de 8 signes au lieu de 7 actuellement. Il en coûtera 10 000 couronnes, soit environ 400 € pour les deux plaques situées à l'avant et à l'arrière du véhicule. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports, Pavel Dobesch, ce mercredi. L'amendement doit encore être soumis à l'examen du Parlement. Ce jeudi 31 mai, 120 ans se seront écoulés depuis la naissance de Bohuslav Hajnek. Ce poète et graveur et traducteur était un artiste profond qui cherchait l'harmonie entre la foi et la création artistique. Bohuslav Hajnek a vécu pendant presque toute sa vie dans la ferme de Petrakov, une maison isolée du plateau Tchekomorav où il menait une vie de paysan et trouvait aussi de l'inspiration pour son œuvre. Ses poèmes et ses gravures expriment l'amour humble de Dieu et de tous les êtres qui vivent et souffrent. Dans les années 1920 et 1930, Bohuslav Hajnek a souvent séjourné à Grenoble, ville de sa femme française Suzanne Renaud, poétesse qui est venue partager ensuite son existence en Tchécoslovaquie et lui a donné 2 fils. On passe au sport et au tennis. 3 joueurs tchèques étaient en lice ce mercredi à l'occasion des premiers matchs du deuxième tour des internationaux de France de tennis. Sur la terre battue de Roland-Garros, Tomáš Berdych a été expéditif contre le français Mikel Lodra qu'il a battu en 3-7. En revanche, Lucie Šafářová et Petra Tsetkovská ont été éliminés dans le tableau féminin. Respectivement tête de série numéro 20 et 24, Lucie Šafářová et Petra Tsetkovská ont été battues l'une comme l'autre en 2-7. La première par l'espagnole Marie-José Fernand Martinez et la deuxième par la française Mathilde Johansson. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable dans la matinée puis de plus en plus nuageux au fil de la journée qui règne sur la majeure partie du territoire ce jeudi, jour de la fête des Camillas. Quelques averses et orages dans la soirée sont prévus, notamment dans la moitié ouest du pays. Les températures sont stables et varient entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce programme d'information préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin d'information. Au sommaire d'aujourd'hui, mercredi 30 mai, avenir énergétique de la République tchèque, une commission d'experts recommande 50% d'électricité d'origine nucléaire. Le Festival de la Culture Rome s'est ouvert ce lundi à Prague et se tiendra jusqu'au 6 juin prochain. Et puis en deuxième partie d'émission, nous vous proposons dans notre rubrique Histoire de réécouter l'émission du 18 mai 2011 sur la vie sous le nazisme dans les pays tchèques. Bonne écoute à toutes et à tous. Une commission de spécialistes dirigée par l'ancien président de l'Académie des sciences tchèques Václav Pačes ainsi que la présidente de l'Institut de sûreté nucléaire Dana Drabova rendra prochainement public au ministère de l'Industrie un document de travail sur la politique énergétique de la République tchèque pour les 15 prochaines années. Alors qu'après la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a annoncé son retrait définitif du nucléaire. Selon Václav Pačes, biochimiste et chef de la commission indépendante sur l'avenir des ressources énergétiques en République tchèque, la part du nucléaire dans la production d'énergie domestique tchèque devrait atteindre 50% de la consommation totale dans les 18 prochaines années. Une déclaration faite le 28 mai au quotidien Hospodářské noviny et qui intervient alors que la commission sur l'énergie vient de rendre au ministère de l'Industrie une première version du document de travail qui doit définir la politique énergétique de la République tchèque pour les 10 prochaines années. L'accroissement jusqu'à 50% en 2030 contre 30% aujourd'hui de l'énergie nucléaire dans la production totale nécessitera la construction de nouveaux réacteurs dans les deux centrales du pays, celle de Temelín et de Dukovany. Sur ce point, le président de la commission d'experts sur l'énergie, Václav Pačes.
Sur la base de nos réflexions et de nos calculs, nous sommes convaincus du fait qu'il est économiquement avantageux d'ouvrir deux nouveaux blocs de réacteurs à Temelín ainsi qu'un cinquième bloc à Dukovany.
Un agrandissement qui devrait toutefois coûter plus cher que prévu, s'étonne Václav Pačes.
De notre côté, je dois avouer que j'ai été un peu consterné d'apprendre ce qui s'est dit aujourd'hui, à savoir que les deux nouveaux blocs de Temelín coûteraient près de 300 milliards de couronnes, environ 12 milliards d'euros. Une estimation curieuse puisque les deux premiers blocs ont coûté 100 milliards de couronnes, 4 milliards d'euros, alors qu'ils ont été mis en place sur la base de la technologie de l'américain Westinghouse qui est très chère.
Une surévaluation du prix a rapproché du rôle que le géant de l'énergie tchèque ČEZ entend jouer sur l'avenir du secteur et qui entend définir ses propres règles du jeu, notamment économiques.
Ce qui est intéressant, c'est ce que le groupe ČEZ est prêt à participer à l'élargissement de Temelín à la condition que le prix d'achat de l'électricité soit garanti par l'État. Je trouve absurde que l'État garantisse quelque chose qui est déjà entre les mains d'une entreprise très puissante.
Le second volet du document de travail concerne le soutien au développement des énergies renouvelables. Celui-ci devrait, selon les experts de la Commission, être arrêté lorsqu'elles intégreront 15% du total de l'énergie produite. Par ailleurs, l'énergie produite à partir des ressources fossiles, le charbon notamment, devrait être rendue plus efficace. Tous les experts de la question ne partagent toutefois pas ces recommandations jugées trop proches des lobbies industriels. Pour les écologistes, les propositions de la Commission vont en sens inverse de la tendance des pays européens. L'ancien ministre de l'Environnement et membre du Parti des Verts, Martin Bursik, critique le manque d'impartialité et de professionnalisme de la Commission sur l'avenir énergétique. Il rappelle par ailleurs le coût de production des différentes sources d'énergie.
Selon la Cour des comptes en France, en 2020, les centrales nucléaires produiront de l'électricité à raison de 70 à 90 euros par mégawattheure, tandis que les éoliennes produiront de l'électricité pour 58 euros par mégawattheure. Et durant ces trois dernières années, le prix de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques est également en baisse.
Za poslední tři roky. Dans les milieux écologistes, les critiques fusent à l'endroit de la Commission. Certains observateurs fustigent le manque d'audace de la politique énergétique tchèque, comparant les experts de la Commission dirigée par Václav Pacès à des promoteurs du télégraphe et du téléphone analogique, à l'heure où le monde est passé à Internet et à la téléphonie sans fil. Depuis lundi et jusqu'au 6 juin, la capitale tchèque se met à l'heure tzigane. Le festival de la culture rom Chamorro bat son plein dans la capitale tchèque, en dépit des difficultés financières qui menacent son existence. Anna Kubishta.
En langue romani, Chamorro, cela signifie soleil. Et il en faut de l'optimisme et du soleil à l'heure où les journaux affichent les mauvaises nouvelles, notamment sur des attaques visant des Roms ou sur l'organisation de manifestations racistes contre cette minorité largement défavorisée. Le festival de la culture rom Chamorro s'efforce depuis 14 ans de faire tomber les barrières entre des communautés qui ont souvent renoncé au dialogue. En effet, comme le relève son organisatrice Yelena Silajdzic, le public du festival a bien changé depuis ses débuts. La première année, nous avions 300 spectateurs roms qui ont applaudi gentiment après chaque chanson et ensuite sont rentrés chez eux. L'an dernier, nous avons eu 2500 personnes, rien que pour le concert de gala, un public complètement mélangé. Nous sommes très heureux. Je crois même qu'il y a eu plus de Tchèques que de Roms. Et puis la grande nouveauté, ce sont les familles tchèques avec leurs enfants qui me disent « Moi, les Roms, je ne les aime pas trop, mais leur musique est exceptionnelle. » Je les ai vus ensuite discuter sans problème avec des familles Roms, s'amuser, danser, boire une bière. Cela leur a apporté beaucoup. Ce n'est pas un festival fait par les Roms, pour les Roms, mais une présentation de la culture Rom.
Ainsi, jusqu'au 6 juin, le public pragois a l'occasion de découvrir cette culture rom au travers d'un programme riche en événements. Parmi ceux-ci, on compte notamment un séminaire consacré aux nouvelles formes du racisme anti-rom en Europe, mais aussi un concert du groupe français Ours Carpaths programmé ces jeudis et samedis. L'édition 2012 de Chamorro a failli ne pas avoir lieu. En effet, l'avenir du festival est menacé, faute de financement suffisant. En attendant, Yelena Silajdzic détaille le contenu du programme de cette année.
Le concept global du programme de Chamorro est environ le même depuis 14 ans. Nous avons de la musique rom actuelle, du jazz et du swing manouche. Cette édition 2012 est un peu différente, car nous avons aussi organisé un défilé de mode. Le couturier cubain, Osmani Lafita, a préparé une collection spéciale d'inspiration tzigane. Il a tout organisé et financé, et nous lui en sommes très reconnaissants.
Et c'est justement mardi que s'est déroulé le défilé de la collection préparé par le couturier Osmani Lafita qui détaille le style de ses créations.
C'est une collection très gaie. Il n'y a pas de style concret, il y a énormément de couleurs très joyeuses et des tissus très légers. J'ai essayé d'y insuffler un peu de l'esprit latino-américain et de style tzigane.
Et pour ceux qui n'ont pas pu voir le défilé de mode de mardi, il ne reste plus qu'à se rendre jeudi à midi sur la place Venceslas, où se déroulera le traditionnel défilé de musiciens roms, un moment festif qui fait traditionnellement partie des événements les plus appréciés du festival. L'occasion également d'y croiser certains des groupes étrangers venus en concert à Prague pour le Soleil Rom. Plus d'informations sur le festival au www.chamorro.cz. Je signale que Chamorro, ça s'écrit Chamorro.
Alors qu'une exposition à Prague rappelle la vie sous le régime nazi dans les pays tchèques et les 70 ans de la mort du chef du protectorat Heydrich, nous vous proposons de revenir sur la vie des nazis en Bohême et en Moravie, et plus particulièrement sur l'un des principaux protagonistes, Adolf Eichmann.
Chapitre de l'histoire.
Le 8 mai dernier, nous célébrions les 66 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, nous revenons sur le rôle des nazis en Bohême-Moravie et plus particulièrement sur un protagoniste que nous avons évoqué dans un des précédents chapitres de l'histoire, Adolf Eichmann. Question slave, question tchèque, voici des aspects méconnus de l'idéologie des nazis et de leurs projets en Europe centrale et orientale. Certes, et c'est la différence avec la question juive, lorsque Heydrich évoque ses projets pour l'avenir des Slaves, il s'agit surtout de mobilisation idéologique. Nous sommes dans un plan à long terme, repoussé à l'après-guerre, mais on sait aussi que l'une des spécificités du nazisme, c'est ce passage si rapide du verbe à la réalité, du fantasme idéologique à la réalisation pratique. Le journaliste Stanislav Motel évoquait avec David Allon la question slave.
Tenhle národ, když mluvím o Češích, tak byl rozdělen do tří kategorie, to skutečně rozdělili.
Dans le protectorat de Bohême-Moravie, les Tchèques étaient divisés en trois groupes. En premier, les irrécupérables. Pour eux, c'était la liquidation immédiate. C'était le cas des juifs, des communistes, des sociodémocrates et des intellectuels. Liquidation. Le deuxième groupe devait être épargné et rester en vie. Mais ces gens devaient être enrôlés pour le travail forcé de la mer du Nord jusqu'à la Patagonie en Amérique latine. Et puis il y avait un troisième groupe, celui des Tchèques germanisables.
S'il s'agissait là d'un plan à long terme, Stanislav Motel rappelle que des examens raciaux avaient déjà commencé à être pratiqués pendant la guerre.
Des tests ont commencé à être entrepris par les nazis. Je repense à l'un de ses protagonistes. C'était le chef des jeunesses hitlériennes pour la Bohème-Moravie. Puis il est devenu le secrétaire personnel de Reinhard Heydrich. Après la guerre, il fera carrière au Bundestag, le Parlement ouest-allemand. Il fut député jusqu'aux années 1970. Il avait écrit une thèse sur la manière de germaniser la nation tchèque. Il y soutenait, par exemple, que les plus aptes à cette germanisation n'étaient pas les habitants de Bohême, mais les Moraves.
On tam napsal, že lépe ke germanizaci nejsou ani tak Češi, ale lidi z Moravy.
Et ces tests, explique Stanislav Motel, concernaient autant les adultes que les enfants.
Pak dějí testy na dětech. Je třeba známý třeba tyhle ty germanizační, že už když třeba byly lidice.
Il y a eu aussi des tests sur les enfants. Cela a commencé par exemple avec Lidice en 1942. Lorsque les enfants séparés de leur mère furent amenés à l'école, on leur dit qu'on pratiquerait sur eux des tests. C'était une équipe de médecins de Prague qui devait s'en occuper. Ils devaient mesurer les têtes, etc. On a beaucoup écrit sur ce sujet, mais surtout en Allemagne. À la mort d'Heydrich, une fondation à son nom est créée qui doit s'occuper de l'évaluation de la qualité raciale des Tchèques. Il y a des histoires folles, comme par exemple ce médecin qui travailla à la germanisation des Tchèques. Il vivra ensuite en République démocratique allemande, Allemagne de l'Est, dont il deviendra le chef de la délégation auprès de Staline.
Pour les Juifs, la question devait en revanche trouver une réponse immédiate. Et ce sera le génocide, déjà bien avancé avant même la fin de la guerre. D'où cette idée, connue, mais encore sujette à débat parmi les historiens, de la fondation, par les nazis, d'un musée de la race disparue à Prague. Pour Stanislav Motel, la réalité de ce projet ne fait aucun doute.
Mais cette histoire de projet d'un musée juif à Prague est avérée. Il s'agissait dans l'esprit de ses concepteurs d'une sorte de skansen de la race disparue. Beaucoup de pièces devaient provenir de Pologne, d'Ukraine, etc., de pays où la communauté juive était importante avant la guerre.
Ma question qui se pose à Stanislav Motel est pourquoi Prague?
Tak Praha byla odvěka, pro ně bylo odvěka německé město, protože to byl Goldenstadt, že jo.
Prague était perçue comme une ville allemande par excellence. C'était la Goldenstadt, la ville dorée. C'était donc un choix symbolique. Aux yeux des nazis, Prague représente d'abord une vieille ville allemande, une ville des origines. Ils ne se sentaient pas à l'aise à Varsovie ou même à Moscou. Mais Prague était leur ville. Par une ironie de l'histoire, Prague est aujourd'hui un centre du patrimoine juif en Europe à cause de ce projet. C'est parce qu'ils voulaient y établir ce musée que les nazis épargnèrent de la destruction la plupart des monuments juifs à Prague.
Ten skandal chtěli udělat, tak se paradoxně zachovalo i strašně moc židovských památek.
En 1946, comme nous l'avons vu dans un précédent chapitre de l'histoire sur Radio Prague, les autorités tchécoslovaques déclarent n'avoir rien à reprocher à Eichmann sur leur territoire. Plus généralement, il est encore inconnu jusqu'aux années 50. Pourtant, il a eu un rôle direct en Bohême-Moravie et pas seulement en Pologne ou en Hongrie, comme en témoigne l'historien Michal Frankel.
Eichmannův vztah ke genocidě českých Židů je poměrně...
Le rôle d'Eichmann dans le génocide des Juifs tchèques est aujourd'hui bien connu et largement documenté dans la littérature. Cela dans deux domaines. Tout d'abord, Eichmann participa à la création de l'Office pour l'émigration des Juifs à Prague en 1939, fondé sur le modèle de l'Office viennois, qui était une œuvre d'Eichmann. Il avait amené à Prague quelques membres de son équipe. Au début, Eichmann dirigeait officiellement l'office à Prague, même si, en fait, il n'a jamais vraiment vécu dans la capitale tchèque.
Na začátku tu ústřednu teoreticky vedl, i když v Praze nějak systematicky nepobýval.
Mais la réelle portée de la responsabilité d'Eichmann dans le génocide juif apparaît en filigrane dès avant la tenue de son procès à Jérusalem en 1961.
Kdy byl Eichmann objeven.
Plus tard, quand il est découvert dans les années 1950, on ne savait encore rien sur lui, il devient, à côté de Mengele, l'icône de la solution finale de la question juive. C'est alors que certains historiens tchèques, comme Václav Král, font le lien entre Eichmann et Heydrich. La deuxième implication d'Heydrich dans le sort des Juifs pragois se trouve au ghetto de Térésine. Le ghetto était placé sous la responsabilité des SS. Eichmann s'y rendait assez souvent et avait beaucoup d'influence sur le développement du ghetto. Il y possédait un bureau que les détenus devaient nettoyer.
Museli čistit a ale i třeba třetí židovský starší v Terezíně Benjamin Murmelstein.
L'un des détenus les plus âgés de Térésine, Benjamin Murmelstein, se rappelait très bien d'Eichmann. De manière symptomatique, Murmelstein, témoin clé, ne sera pas invité à Jérusalem lors du procès Eichmann en 1961. En effet, il représentait un aspect encore tabou en Israël à cette époque, celui des conseils juifs créés dans les ghettos par les Allemands. Ces conseils passaient pour avoir collaboré, ce qui dans la réalité ne fut pas vrai.
Které byly vnímány jako kolaboranti neprávě.
Voilà, c'est par cette rubrique historique préparée par David Allon et Alexis Rosenzweig que se termine notre programme d'information. Aujourd'hui, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet au www.radio.cz/fr. Au revoir et nasledanou.